Pauline Pucciano, Paradict, 30 janvier 2072. Tentative d'assassinat de la secrétaire générale, le tireur identifié appartiendrait à un groupuscule terroriste nommé Carpe Fatum. Mariage gouvernemental, une audience record de 5 milliards de spectateurs. Première vague de stérilisation, un engouement inattendu. Cela faisait 2 jours qu'Abel écumait le Paradict. Le nom de Cyril Borgheist était dans les journaux, et Abuela l'avait même convoqué, lui, Abel, pour un complément d'information à son sujet. Il n'avait rien ajouté d'intéressant, mais l'Intelligence n'avait plus besoin de sa participation active. Les informations qu'il avait données en septembre avaient dormi pendant quelques mois, mais elles avaient refait surface au moment opportun. Oswald avait été identifié et nommé grâce à son rapport. Cyril s'était rendu de lui-même, d'après les journaux, à la police, où il avait été longuement entendu. Puis il avait été relaxé, car rien ne permettait d'affirmer qu'il fût à l'origine de l'acte suicidaire de son ami. Il nia toute implication dans quelque forme de violence que ce soit, et fit une déclaration publique dans laquelle il annonçait la dissolution officielle d'un groupe qui, malheureusement, s'était écarté de sa voie initiale. Il était probablement sous haute surveillance, et Abel ne devait pas chercher à le contacter dans le monde réel. Mais il cherchait sans relâche son ange dans le Paradict, parce qu'il avait 1000 choses à lui dire. Il voulait lui raconter la scène, le regard fiévreux d'Oswald en train de préparer son tir, sa mort rapide, sans doute bienfaisante, qu'il avait cherchée plus que celle d'Elsée. Il voulait lui dire qu'il se trouvait là par hasard, qu'il n'était pour rien dans tout cela, qu'il avait sauvé Elsée mais aurait aimé sauver Oswald, qu'il avait agi par réflexe. Il voulait lui dire surtout qu'il pensait à lui journellement, que son absence le lançait comme une blessure. Mais toutes ces paroles urgentes, pressantes, restait emmagasiné en lui, sans pouvoir en sortir, et le gonflait peu à peu d'un désir douloureux. Il mit plus de 2 jours à admettre l'idée que peut-être il ne reverrait jamais Cyril. Leur relation aurait pu être différente dans un autre contexte, mais elle avait été mise à mal, taillée en pièces par les circonstances. La découverte de sa propre duplicité avait été le premier coup porté. La mort d'Oswald, qui apparaissait injustement comme une conséquence de ce double jeu, avait achevé le travail de sape. Cyril entrait dans la clandestinité au moment où Abel entrait en pleine lumière. Oswald était mort par sa faute, parce qu'il lui avait donné l'heure et le lieu où il pourrait trouver Elsée, et il était mort en vain, parce qu'il avait naturellement fait dévier sa cible. Il se trouvait pris dans la mort d'Oswald comme dans un filet. Elsée lui témoignait une reconnaissance publique, ainsi que les agents de la sécurité, et pire encore, ceux de l'Intelligence. Il resterait dans l'histoire comme l'homme qui avait sauvé la peau d'Elsée Costa. Le Paradict déroula pour lui ses démons et ses merveilles, ses bas-fonds, ses rencontres excentriques. Il enquêta avec une fougue désordonnée et une impatience mortelle à toutes les adresses qu'on lui donnait. Les hackers de Carpe Fatum se montrèrent méfiants et coupèrent la connexion après avoir promis de faire passer le message à Cyril qu'Abel cherchait à le contacter. Il ne les retrouva pas. Les lieux où il s'était donné rendez-vous étaient déserts, ou plutôt pleins d'anges inconnus, irréels et inutiles. Abel chercha dans tous les lieux dont ils avaient parlé, dans tous les spots de franchissement urbain. Il créa un mémorial en l'honneur d'Oswald, qui attira des gens dont il n'avait que faire. Il architecta des objets viraux, destinés à transmettre un message à Cyril. Puis, lassé de chercher dans toutes les directions de cet univers sans limite, il renonça. Le sentiment du deuil le frappa alors de manière brutale. Il fut envahi d'un sentiment plus vaste que lui-même, qu'il n'avait jamais éprouvé et auquel il ne savait pas donner de nom. Un vide qui s'insinuait à la fois en lui et dans le monde, une perte totale, déroutante et soudaine de tout sens. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis un temps d'enfance archaïque. Il pleura sa mère qu'il n'avait jamais pleuré, son intégrité perdue. Il pleura ce bonheur entrevu, étreint et sitôt disparu, qui avait le goût des lèvres de Cyril. Il pleura Oswald, son corps souffrant et maquillé, qu'il avait tant ému. Il pleura l'humanité condamnée et violentée dans ces derniers siècles. Il pleura la liberté que sa sœur était en train d'étrangler. Une phrase oubliée de Dickens lui revint en mémoire, et il songea qu'il était en train de devenir aussi sentimental qu'Alvar. Dieu sait que nous n'avons jamais à rougir de nos larmes, car elles sont comme une pluie sur la poussière aveuglante de la terre qui recouvre nos cœurs endurcis. Son cœur en effet semblait fondre, et cette effusion lui paraissait ne devoir jamais prendre fin. En début de soirée, épuisé, il tâcha de voir clair en lui-même. Il était amoureux et malheureux, mais il n'y avait pas que cela. Cet amour était depuis le début un amour politique, un changement de camp, et cette dimension était restée stable dans le déluge. Sa détermination à combattre Elzé n'était pas un effet secondaire de sa passion pour Cyril. Elle était ce qui survivrait à cette passion, elle en était la forme intellectuelle et sociale. Fort de cette découverte, Abel cessa de pleurer et décida d'appeler Alvar. Il avait fallu beaucoup de patience à Alvar pour traverser les deux derniers jours. La décision qu'il avait prise et que son départ précipité du mariage avait en quelque sorte entérinée dans son esprit ne pouvait pas être mise à exécution immédiatement. Il lui fallait attendre, en l'occurrence, que les formalités administratives de son enquête soient accomplies et que le corps de Marek Escanza puisse être restitué à sa famille. À la surprise du chef, qui le considérait comme un inspecteur particulièrement têtu, il avait accepté de classer l'affaire sans suite, comme non résolue, et de détruire toutes les copies du rapport qu'il avait rédigé et remis à sa sœur. Il avait ensuite essayé de mettre son bureau en ordre, ainsi que sa paperasse, tout en discutant avec Samir de la suite des événements. Samir allait lui manquer, mais il continuerait à échanger avec lui dans le paradict, et il tâchait de ne pas y penser. Tout le reste ne lui manquerait pas, ni les cadavres dans les tiroirs, ni les cafards de la morgue, ni le chef. Par instant, un doute affreux le prenait. Et si sa décision se heurtait à un refus? Cette perspective lui faisait un peu peur, mais il tâchait de ne pas l'envisager. Enfin, la notification administrative tomba, et Alvar prit place dans le corbillard électrique qui se dirigea vers la caravane. Les rues de la City étaient dégoûtantes d'une pluie tiède, et Alvar vit défiler, sans les voir, les visages blêmes des passants, les nuées d'insectes, les oiseaux faméliques. Le cercueil de Marek lui paraissait étrangement étroit, et il se dit qu'il ne mettrait sans doute pas très longtemps à brûler. Arrivé à la caravane, il y constata aussitôt une effervescence nouvelle. On démontait les tables, les bancs, les fours, les tentes, on tendait les voiles. La tente du patron était à moitié déconstruite, et Alvar décida de passer le voir après. Il alla directement dans la roulotte des parents de Marek et fut saisi par le visage émacié de sa mère, dont la maladie semblait avoir gagné du terrain. « Ça y est, vous nous rendez le corps ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, ça y est. » « Et qu'avez-vous trouvé pour que ça prenne autant de temps ?» maugréa le père. « J'ai trouvé qui a commandité le meurtre et pourquoi. » Les parents se regardèrent surpris. « On ne nous a pas dit ça. On nous a dit que l'affaire avait été classée comme non résolue. » « Oui, officiellement, elle a été classée comme non résolue, parce que le meurtrier est très haut placé. Mais je sais qui il est, je lui ai même parlé. » Le père le regardait avec une fixité troublante, et ses yeux ardents semblaient lui demander quelque chose que sa bouche n'osait pas dire. « Quand part la caravane ?» demanda Alvar. « Demain, à l'aube. » « Ça vous laisse le temps ?»« Le temps de quoi ?» demanda la mère. « L'incinération est prévue pour cet après-midi ?» « Le coupable s'appelle Curtis Anglione. Il a assassiné votre fils pour lui voler son ordinateur. »« Qu'est-ce qu'il y avait donc dedans ?» demanda le père méfiant. « Votre fils est très célèbre dans le paradict. Il est considéré comme un génie. Je le considère comme un génie. » La mère ne put retenir quelques larmes, qui étaient les premières d'une journée qui n'en serait pas avare. « Si c'était un génie, pourquoi l'aurait-on tué ?»« Pour prendre sa place dans le paradict, pour voler son ange. » C'est le caprice d'un homme de pouvoir. Et qui a fait le travail? Quelqu'un d'ici. Un homme? Oui, quelqu'un de la caravane, moyennant finance. Mais le patron s'en est occupé personnellement. Le patron est au courant? Oui. Et ce Curtis Anglione, où est-ce qu'on peut le trouver? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Le père hésita à poser une autre question, puis il hocha la tête en signe de salut et sortit précipitamment. « Je peux vous offrir quelque chose, monsieur ?» demanda la mère, « avant que j'aille voir mon fils. »« Non, je vous remercie. Nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Je compte demander au patron l'autorisation de voyager un moment avec vous. » La mère de Marek écarquilla les yeux, puis un pâle sourire éclaira son visage humide. « C'est Marek qui nous a réunis. C'est à lui que vous avez voulu rendre justice. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas sa roulotte? Elle est si jolie, cette roulotte. Ça me crève le cœur de la laisser là. Anywhere out of the world. Cette roulotte qui le poursuivait depuis des mois trouvait enfin sa place dans sa vie et il en éprouvait une joie indicible. « Mais pour tout ça, il faut demander au patron, » reprit la mère. « Vous devriez aller le trouver. » Le patron supervisait une opération difficile qui consistait à remettre sur roue la roulotte publique capable d'accueillir presque la moitié de la caravane. Les hommes et quelques femmes conjuguaient leurs efforts pour soulever l'énorme structure le temps que d'autres fixent les roues. Alvar, naturellement, se joignit à l'effort commun. Les hommes le regardèrent avec surprise, mais sans défiance. On acceptait tous les bras lorsqu'il y avait un coup de main. Lorsqu'il eut fini, un peu essoufflé, et déjà en sueur malgré l'heure matinale, il s'approcha du patron. « Qu'est-ce que vous faites encore là, vous ?» demanda le patron d'un ton bourru. « Vous n'étiez pas obligé de ramener le corps de Marek ?»« J'ai une requête à vous faire. »« Une requête ? Voyez-vous ça ? D'habitude, les flics ont plutôt des mandats de perquisition. Je n'en connais aucun avec des requêtes. »« Vous en connaissez un maintenant ?» Enfin, plus pour très longtemps, parce que ma démission devrait prendre effet dans une heure. Vous démissionnez? Oui, et pour parler sans détour, même si je sais que vous les aimez bien, j'aimerais prendre la route sous votre protection. Le patron ne parut pas surpris. Il ne fit pas d'ironie. Il prit la chose avec sérieux et simplicité. Vous avez une roulotte? En fait, oui, dit Alvar en souriant. Sa mère vient de me proposer celle de Marek. Une roulotte ne doit pas rouler à vide, dit le patron, ça me paraît juste. Et j'emmène ma femme avec moi. Tiens donc, je vous voyais plutôt du genre célibataire. C'est d'accord, départ demain à l'aube. Si vous ne vous adaptez pas, on vous débarque au prochain arrêt. Le patron lui tendit sa grosse main paternelle ornée de chevalières rutilantes. Alvar allait pour la serrer dans la sienne lorsqu'il se ravisa. Il porta finalement la main à ses lèvres et baisa la bague la plus grosse. Le métal froid sur sa bouche fut une sensation agréable et fugitive, comme la promesse d'un lien plus étroit. Autour, on le regardait toujours avec étonnement, mais sans animosité. « Je dois repasser chez moi pour prendre quelques affaires et laisser tout en ordre. Je reviendrai tout à l'heure. » Cette fois, le patron sourit et lui lança un regard moqueur. « Vous vous êtes placé sous ma protection, Alvar Costa. Ça ne veut pas dire que je vais vous surveiller comme un gosse. Faites vos affaires. Chacun fait ses affaires ici. » C'est la première règle à retenir. Alvar hocha la tête et sortit de la caravane, la tête légère, un sourire accroché à ses lèvres, le cœur battant. Du coin de l'œil, il vit la roulotte de Marek qui l'attendait, avec ses peintures vertes et rouges, où un personnage lunaire semblait l'inviter au voyage. Sonia était restée dans l'appartement d'Alvar pour l'attendre. Son propre appartement lui avait toujours fait légèrement peur depuis la mort de Steve. Elle trouvait ici un refuge tout imprégné d'étreintes. Alvar lui avait confié, le jour du mariage de sa sœur, lorsqu'il s'était retrouvé seul ici, sa décision de tout plaquer. Quitter la globale, laisser la WA et sa corruption, son père et ses criailleries acariâtres. Sonia n'était jamais allée sur la route, et elle écoutait les récits d'Alvar comme s'il s'agissait d'une fiction. Mais l'idée du départ l'attirait depuis longtemps, sans qu'elle le formulât de cette façon précise. Vivre ainsi, dans des appartements sans fenêtres, fuyant les lieux trop fréquentés qui lui donnaient des crises d'angoisse, avec le spectre d'un attentat toujours présent à son esprit, était incompatible avec son idée du bonheur. Alvar lui avait montré des clichés de Marek, Kansas, et lui avait vanté la beauté rude de cette existence menacée et précaire qui portait toutes les ivresses des départs et tout l'espoir des voyages. Il l'avait abreuvé de poèmes qui résonnaient étrangement dans ses rêves, et surtout, il avait libéré en elle l'horreur de la City qui couvait depuis des années et qu'elle s'était efforcée de dompter. Cette ville morte et tentaculaire, comme un gigantesque cadavre de pieuvre, vous écrasait de ses membres immobiles, vous suffoquait de sa puanteur. Elle essayait de retrouver les vers de Miloz qu'Alvar lui avait récités. Dans un pays d'enfance retrouvé en larmes, dans une ville de battements de cœur morts. Partir avait le goût d'une renaissance, d'une rédemption. Les noms, selon Alvar, vivaient au présent, sans se soucier de la destination. Au sein de la WA, on vivait en permanence dans la peur de l'avenir, dans l'anticipation de la mort ou de l'accident. Et elle, Sonia, avait aussi vécu trop longtemps dans le ressassement stérile du passé. Entre le passé et l'avenir tyrannique, son présent s'était amenuisé jusqu'à l'étouffement. Or, le présent était la seule dimension possible du bonheur. Alvar le lui avait rappelé par ses caresses et ses poèmes, Il avait cette qualité rare d'être toujours tout entier dans l'instant, happé par ses sensations, saisi par la beauté d'une lumière, d'une vision. Elle l'imaginait heureux en nomade, en voyageur sans bagages, libéré du poids de l'histoire. Et elle n'avait rien qui la retint ici. Elle emporterait quelques vêtements et sa guitare, et ce dénuement même lui paraissait infiniment désirable. La joie d'Alvar à son retour fut contagieuse. Soudain, il n'exista plus que deux. Le monde ennemi qui les avait malmenés s'évaporait dans la lumière, les laissant victorieux et libres, tellement libres qu'ils en éprouvaient une sorte de délire vertigineux. Abel eut un peu de mal à joindre Alvar, et lorsqu'enfin son frère aîné le rappela, il mit un certain temps à comprendre ce qu'il lui disait. « Je pars, Abel, je pars ce soir. Où vas-tu ? Je prends la route avec Sonia, j'ai posé ma démission. » Abel, déjà en deuil, dut faire un effort pour ne pas se laisser submerger à nouveau par sa tristesse. Alvar allait lui manquer, et cette annonce l'affectait plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Tu prends la route ? » répéta-t-il. « Oui, notre caravane part demain matin à l'aube. » Les questions que se posait Abel, comment l'idée lui en était venue, est-ce qu'il avait une roulotte, comment allait-il gagner sa vie, lui semblaient déplacées, et il préféra ne pas les poser. « Tu as prévenu Elsé ? Certainement pas. Elle le découvrira bien toute seule quand elle se souviendra de mon existence, c'est-à-dire peut-être jamais. » Abel sourit au téléphone. « On peut se voir ce soir ? Si tu veux, tu peux venir à la caravane ce soir. Je t'envoie les coordonnées. » En raccrochant, Abel ne put s'empêcher de continuer à sourire. Le départ d'Alvar le rendait à la fois triste et heureux. Cet épilogue inattendu lui paraissait plein de sens. Il songea aussi qu'il se rendait cette fois véritablement sur la route, dans cette fausse famille qu'il avait inventée pour Cyril et qui devenait en quelque sorte réelle. Il aurait un frère nomme, en plus d'une sœur secrétaire générale, et ce rééquilibrage entre réalité et fiction, entre pouvoir et liberté, lui parut salutaire. Qui était-il lui-même ? La question lui apparaissait chaque jour plus vaste et plus complexe, méritant une réponse infiniment nuancée, riche de significations multiples et contradictoires, comme un paysage ou une œuvre d'art. Il franchit la frontière de la City avec la même excitation que lorsqu'il s'était rendu au meeting de Carpe Fatum quelques mois auparavant. Cette transgression spatiale lui procurait un plaisir vif et mêlé d'inquiétude. Il se sentait, comme Alvar avant lui, plus éveillé dans cet environnement étrange. Le soir tombait et les noms avaient fini les préparatifs du départ. Ils s'étaient rassemblés dans un espace central, entouré de roulottes de bois peint. Il y avait là des bancs, des chaises, des gens assis à même le sol, des enfants curieux qui ne semblaient pas devoir aller se coucher, deux délicats, quelques vieillards, quelques malades. On parlait, on jouait de la guitare, on chantait, on buvait surtout, et quelques jeunes dansaient. Il était étonnant de se dire que tout cet espace créé allait disparaître le lendemain, que de cette soirée de fête, il ne resterait que le désert de la route. Abel eut quelque mal à repérer Alvar et Sonia, qui étaient assis sur les marches de leur roulotte, l'une des plus ouvragées de la caravane. Sonia avait lâché ses cheveux roux, qui luisaient à la lumière du feu. Alvar n'avait pas l'air contraint qu'il avait en famille, ni l'air mélancolique qu'il lui avait toujours connu au Blue Note. Il paraissait pleinement lui-même, et presque beau. Sa main jouait avec une mèche des cheveux de Sonia, et il échangeait des propos qui semblaient l'amuser, avec une femme à la voix grave et sonore. « Alors, comment m'appelez-vous » demandait Alvar avec insistance. « Quel surnom m'avez-vous trouvé ? Le patron m'a dit de vous le demander. » « Je t'ai surnommé sans famille, et arrête de me vouvoyer si tu dois voyager avec nous. » Alvar eut un petit rire appréciateur. « Ça lui va bien, déclara Sonia, et ça me va encore mieux. » La liseuse de cygnes regarda Sonia avec acuité et hocha la tête d'un air dubitatif. « Pour toi, ma petite, j'aurais bien d'autres noms. Mais j'ai tout de suite senti qu'Alvar n'était pas à sa place dans son monde, qu'il était orphelin, qu'il voulait se faire adopter, dès la première seconde. » « Adopté par les saltimbanques, précisa Alvar. « À part les saltimbanques, qui aurait voulu de toi ?» se moqua la liseuse de cygnes. Mais il y avait une forme de tendresse dans sa voix qui n'échappa pas à Abel. Sonia fit les présentations et Alvar étreignit Abel avec une chaleur inaccoutumée. « C'est la première fois que tu viens sur la route ?» lui demanda la liseuse de cygnes. « Oui, » dit Abel. « Toi, tu n'y reviendras pas. Tu n'es pas comme ton frère. Qu'est-ce que j'ai de différent ?» Tu sais bien ce que tu as de différent. Lui, il a une couleur bien à lui, et il a cherché longtemps la femme et la vie qui pouvaient s'accorder à sa couleur. Et moi? Toi? Tu es un caméléon. Et y a-t-il une rédemption pour les caméléons? Demanda-t-il plus sérieusement qu'il ne l'aurait voulu. La liseuse de cygne eut un air un peu triste. Non, les caméléons sont irrémédiablement salis par les couleurs qu'ils empruntent. Abel hocha la tête. C'est bien ce que je pensais, dit-il. La liseuse de cygne laissa Abel à sa perplexité et ne lui adressa plus la parole de la soirée. Sonia participa au bœuf et révéla ses dons pour l'improvisation. Elle fut applaudie avec chaleur et accompagna, en fin de soirée, une berceuse en langue arabe qu'elle n'avait jamais entendue. Le patron lui fit même l'honneur de danser avec elle pendant quelques minutes. Abel et Alvar ne parlèrent pas beaucoup, mais burent ensemble une grande quantité d'alcool, en souriant. « Je suis tombé amoureux, » dit Abel, après quelques verres. Alvar tourna la tête, surpris. « Toi ? » ?»« Amoureux d'un garçon. » Alvar ne répondit pas et resservit un verre à son frère. « Tu as l'air triste, » dit-il. « Ça n'a pas marché ?»« Non, c'est une histoire compliquée. J'ai besoin de noyer mon chagrin. » Alvar le prit par l'épaule et Abel se laissa faire. « Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi le dimanche chez papa ? » demanda-t-il avec un tendre reproche. « Je t'enverrai des mots par le paradict et tu me raconteras comment tu les as placés. Ce ne sera pas pareil. » Alvar était surpris. Jamais Abel n'avait été aussi près d'être sentimental. La tristesse et l'alcool rendaient à son visage une candeur que l'intelligence avait chassée depuis l'enfance. Alvar se rappela soudain, ce qu'il oubliait toujours, que son frère n'avait que 20 ans, et il eut pitié de son premier chagrin d'amour. Des bruits le tirèrent de sa rêverie, et il entendit des noms parler d'aller assister à un combat régulier qui avait lieu quelques mètres plus loin. On entendait des exclamations étouffées et des coups. Les noms de Escanza et de Basra revenaient dans toutes les bouches, et Alvar soupira, certain que la mort de Marek, qui n'avait pu être soldée chez les sédentaires, se solderait ici, dans un ring immatériel, devant un public d'hommes. Un coup d'œil au patron, qui gardait un air grave au milieu de la fête, le persuada que le combat se tenait sous son autorité. Il n'avait pu refuser au père de Marek de faire justice à son fils. Alvar se sentit étrangement léger. Cette affaire n'était plus la sienne. Il avait fait son devoir envers le mort et acceptait son héritage. La vengeance ne lui appartenait pas. Tandis que la musique de la guitare couvrait les bruits sourds de la rixe et que les rires et les chansons fusaient, Alvar essaya de saisir la qualité particulière de cet instant où l'exubérance de la fête prenait, sur fond de violence, un caractère d'urgence et une sorte de solennité. Ce fut la voix d'Apollinaire qui lui murmura à l'esprit les mots qui allaient teinter dans sa tête toute la nuit. Les démons du hasard, selon le chant du firmament, nous mènent. À son perdu, les violons font danser notre race humaine sur la descente à reculons.